les réseaux sociaux dans le monde catholique. C'est quelqu'un qui fait un super boulot sur Internet, mais il y a des lieux où je ne peux vraiment pas le suivre, d'autant que l'air de rien, le frère Paul Adrien, c'est son nom, met de bons taquets aux protestants de temps en temps. Le voici. Ah, il n'y a pas de son. Hop, alors on va attendre. J'attends. Pas de problème. Ça fait du suspense, tout ça, c'est bien. Que se passe-t-il? Que va-t-il dire?
Parmi les questions qui reviennent régulièrement, il y a « Pouvons-nous savoir si nous serons sauvés ?» Et la réponse est malheureusement non. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir l'espérer. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Matthieu 10, 22. Et on ne peut pas savoir si on va persévérer jusqu'au bout dans la foi chrétienne et en état de grâce. Mais on peut l'espérer. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce qu'à la fin des « Je vous salue Marie », on rajoute toujours cette phrase « Maintenant et à l'heure de notre mort ». Ce que je vous dis là a fait l'objet d'une déclaration au Concile de Trente. À moins d'une révélation privée, celui qui déclare avoir la certitude absolue qu'il persévérera jusqu'au bout, qu'il soit anathème. Et le Concile rajoute, si nous n'avons pas la certitude absolue, nous pouvons néanmoins avoir la très ferme espérance. Donc, courage et allons-y gaiement.
Voilà. Le Concile de Trente. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait notre ami Paul Adrien, parce que le Concile de Trente, c'est ce fameux concile du XVIe siècle, autrement connu sous le nom de Contre-Réforme. Voilà, c'est clair. Comme son nom l'indique, il s'agissait de contrer la réforme protestante. Alors l'anathème qui est prononcé ici par ce concile, il vise expressément les protestants. Alors, on va répondre à la question, c'est pas pour rentrer dans une guerre de clochers, d'autant qu'aujourd'hui, en principe, je pensais parler d'œcuménisme, alors vous voyez que, bref. Mais on y viendra, parce que pour moi, c'est ça, l'œcuménisme aussi, en vrai. On va répondre à la question, non pas pour rentrer dans une guerre de clochers, mais d'une part, parce que le texte que j'avais prévu pour ce matin parle de cette question, en fait... Lors du baptême de Tabatali, j'ai prêché sur Éphésiens 1, 15 jusqu'à 2, 8. Et le texte d'aujourd'hui, c'est le texte qui précède. Donc d'une part, c'est parce que ça correspond à ce que j'avais prévu. Et d'autre part, parce que c'est une question importante que celle-ci. Ainsi donc, on ne pourrait pas être sûr de notre salut. Pardon. Ce n'est pas une question métaphysique, c'est une question très concrète. Parce que si je ne suis pas sûr de mon salut, alors je suis condamné à une vie d'angoisse quant à la perspective de l'éternité. Et ça n'a pas échappé à certains commentateurs, notamment à une femme qui a laissé deux commentaires sous la vidéo et qui illustre bien, je crois, l'angoisse que ça peut générer. Voici ce qu'elle dit, me dire que Dieu est un père, papa, et ma seule espérance dans ma dépression, se dire qu'on n'est pas sûr d'être sauvé, ça me fait très mal. Ça sert à quoi alors la mort de Jésus, demande-t-elle. Et elle ajoute un deuxième commentaire en disant « Je comprends Judas qui s'est suicidé de désespoir ». Alors c'est un peu raide, mais ça donne quand même une bonne idée de l'enjeu. Voilà au fond de quoi on parle quand on parle de l'incertitude du salut. Voilà ce que ça peut générer. Heureusement, il y a un texte qui nous donne trois garanties que je crois absolument fermes quant à notre salut, un texte dans lequel nous pouvons trouver un plein repos en Dieu pour ce qu'il va advenir de nous. On va aller lire ce texte, vous avez compris qu'il est en Éphésiens 1, je l'aurai affiché derrière moi, mais avant, comme à mon habitude, je vais prier. Seigneur, à nouveau, nous te rendons grâce pour ta parole qui est lumière et vie, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous parle de vie éternelle, qui nous parle de vie abondante pour aujourd'hui, ta parole qui nous sauve, ta parole qui est puissante, qui a cette capacité de transformer des vies. Et nous nous apprêtons maintenant à la lire. Alors nous te prions pour qu'elle fasse l'effet que toi, tu souhaites qu'elle fasse dans nos cœurs et dans nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, le texte que je vous propose... Tiens, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, là... C'est bon ? Ok, merci. C'est Éphésiens 1, versets 1 à 14. Si vous voulez me suivre dans vos Bibles, vous pouvez. Sinon, c'est affiché ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, par Jésus-Christ, à l'adoption filiale, pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a octroyée abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère tout, selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit-Saint qui avait été promis, et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. En lui, 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 d'une façon ou d'une autre, cette expression, elle apparaît 11 fois en 14 versets. En lui, en Christ, dans le Christ, etc. Vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à ça. Il n'y a pas de son. Hop. C'est bon ? Toujours pas. Je réessaye.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Moi, président de la République, 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 moi, président de la République... Moi, président de la République, 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 j'essaierai.
Voilà. 15 fois, 15 fois, c'est François Hollande, lors du débat présidentiel de l'entre-deux-tours en 2012, qui a terminé donc son intervention en démarrant ses 15 dernières phrases par « Moi, président de la République ». On se demande quel message il voulait nous faire passer. Ça s'appelle une anaphore. Alors, l'anaphore, c'est une figure de style qui consiste effectivement à débuter toutes ses phrases par une même expression. Et à quoi ça sert une anaphore ? Eh bien, ça sert à marteler une idée qu'on veut imprimer dans les esprits. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui, il semblerait que Paul, en Éphésiens 1, ait cette intention. Il veut faire entrer quelque chose dans nos petites têtes. Et ce qu'il veut faire entrer dans nos petites têtes, ce sont les bénédictions qui sont les nôtres en Christ. Tout à l'heure, on a mentionné le verset 3 qui nous dit que le Père nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Alors, une première chose qui est intéressante à constater, c'est que ce verset, c'est ce qu'on appelle un verset trinitaire. Il nous parle du Père qui nous a bénis par des bénédictions de l'Esprit dans le Christ. On a le Père, le Fils et l'Esprit dans ce verset. Et les versets suivants vont développer en fait cette dimension trinitaire pour nous offrir des garanties quant à notre salut. Et franchement, je ne vois pas comment on pourrait les faire plus solides. Cela étant, il faut admettre qu'elles ne sont pas toutes faciles à avaler, en particulier la première. Choisi par le Père. Le verset 4 nous dit que en Christ, nous avons été choisis par le Père. Le verset 5 dit que nous avons été destinés d'avance à l'adoption filiale. Et d'autres traductions disent que nous avons même été élus, que nous avons été prédestinés. Et franchement, c'est un peu dérangeant, je trouve. C'est un peu dérangeant parce que ce que ce texte nous dit, c'est que Dieu choisit ceux qu'il sauve. Il y a donc des personnes que Dieu sauve et des personnes que Dieu ne sauve pas. C'est entre ses mains. L'être humain n'a apparemment aucune part là-dedans, en tout cas au moins à première vue. À première vue, on dirait là qu'on est un peu rendu à l'état de marionnette, de pantin, avec un destin écrit, un destin qui est scellé à l'avance, auquel on ne peut pas échapper et auquel on ne peut rien changer. On est dans une espèce de fatalisme. Ce qui devait arriver, arrive. Ce qui doit arriver, arrivera, quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe. Pire, si Dieu choisit ceux qu'il sauve, alors il condamne aussi des gens qui n'avaient aucune possibilité de venir à la foi, puisque Dieu ne les avait pas choisis. Alors Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais ça fait quand même un peu froid dans le dos, je trouve. Seulement voilà, d'autres versets semblent dire tout autre chose. Deutéronome 30:19, c'est un verset que j'ai déjà dit plusieurs fois parce que je l'affectionne, dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie, choisis la vie. » Ézéchiel 30:11 dit « Ce que je désire, c'est Dieu qui parle, ça n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » Jean 8:44, Jésus parle à ses opposants, il leur dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Ou encore Jean 5, verset 40, où Jésus dit « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et là, on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre du choix, de la volonté, qui implique notre volonté, qui implique une pleine liberté humaine quant à la possibilité de changer de voie, sinon on se demande bien pourquoi on nous appellerait à la repentance. Et en même temps, un chapitre plus loin seulement, Jésus affirme aussi « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? En fait, on se retrouve devant des textes en tension. Et comme nous sommes des êtres humains, on a envie de résoudre cette tension. On se dit comment c'est possible ? Alors dans l'histoire, vous avez d'un côté Jean Calvin, avec une belle barbe. Jean Calvin, c'est l'un des grands réformateurs qui a fortement appuyé, lui, sur la doctrine de l'élection. Dieu est souverain, Dieu choisit qui il veut, son appel est irrésistible, s'il t'appelle, tu es obligé de venir, et s'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas venir. Et puis de l'autre côté, nous avons Jacobus Arminius, qui est un théologien néerlandais, lui, de la deuxième moitié du XVIe siècle, donc ils étaient presque contemporains. En gros, Arminius est né quand Calvin est mort, grosso modo. Et lui, ce qu'il dit, c'est que Dieu choisit ceux dont il sait, dans sa préscience, qu'ils vont placer leur foi en Christ. Dieu est hors du temps, il voit donc ce qui va se passer, il voit qu'un tel et un tel vont placer leur foi en Christ, et donc il les choisit. Voilà. Autrement dit, pour Arminius, les êtres humains ont bien une pleine possibilité de croire ou de ne pas croire. Donc, on a Calvin d'un côté, Arminius de l'autre, ce qui a donné deux grands courants théologiques qui s'appellent le calvinisme et l'arminianisme. Et puis ensuite, très modestement, il y a moi, avec mon nouveau courant, le arminiano-calvinisme ou le calvino-arminianisme, bon, je ne suis pas tout seul en vrai, qui dit... Et si on n'essayait pas de résoudre la tension qui existe entre les textes ? Et si on acceptait le paradoxe et qu'on essayait plutôt de comprendre pourquoi la Bible nous l'offre ? En fait, ça, moi, ça m'intéresse. Parce que la première chose qu'on peut dire, je crois, c'est que, effectivement, la Bible affirme la souveraineté de Dieu pleinement, totalement, sans aucune limite, je veux dire. On peut tout à fait dire avec Calvin, mais surtout avec la Bible, que Dieu nous a choisis, parce que, on l'a lu en fait, Dieu nous a choisis, il nous a prédestinés à la vie éternelle, il n'y a aucun doute là-dessus, on ne peut pas aller à lui S'il ne nous a pas attirés à lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu est définitivement à l'origine de notre salut. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que d'une façon tout à fait mystérieuse, Dieu, dans le cadre de sa souveraineté, nous permet de faire de vrais choix, des choix qui sont absolument authentiques, qui sont pleins et entiers. Quand on rejette Dieu, on le fait de notre propre volonté. Quand on accueille sa parole, on le fait aussi de notre propre volonté. Nous sommes absolument et pleinement responsables de nos choix, de nos pensées et, pour finir, de nos actes. Alors, on peut se dire, bah non, franchement, c'est l'un ou l'autre. Ça s'auto-exclut. Soit je suis prédestiné, soit je suis libre de mes choix. Mais ça ne peut pas être les deux. Eh bien, pardon de le dire, c'est mon point de vue, hein, mais pour moi, ça, c'est vraiment des prises de tête de théologien. Devant le texte biblique, pour ma part, je n'éprouve pas le besoin de résoudre tous les paradoxes. Je crois plus juste de plier le genou et d'accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent parce qu'on parle de Dieu. C'est comme les discussions interminables autour de la Trinité. Elles peuvent être très intéressantes, hyper stimulantes. C'est stimulant intellectuellement. Ça nous permet aussi de toucher du doigt de grandes vérités au sujet de qui est Dieu. C'est donc important à creuser, je trouve. Mais il y a un moment où il faut aussi admettre le mystère parce qu'on est en train de parler d'un Dieu qui nous dépasse largement. Alors, je l'ai déjà dit, mais moi, un Dieu qui me dépasse, en fait, ça me rassure beaucoup parce qu'un Dieu qui entrerait tout entier dans ma faculté de raisonnement, ben, il y a de bonnes raisons que ce soit un Dieu qui sorte de la tête d'un être humain. Pour ma part, je crois en un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Comment ce Dieu-là pourrait entrer tout entier dans ma petite caboche? Alors, les paradoxes ne me font pas peur. Par contre, je crois que la Bible ne dit rien par hasard. Du coup, je garde les deux affirmations. Je garde l'affirmation biblique de l'élection, non seulement parce qu'elle se trouve dans la Bible, mais aussi, et je crois que c'est sa fonction principale, parce qu'elle m'empêche de me glorifier de mon propre salut. Je ne peux pas me regarder moi-même avec un sentiment de supériorité sur mes contemporains en me disant « Ouais, mais moi, j'ai choisi Christ, quoi. Je suis chrétien, j'ai choisi Christ. S'ils étaient un peu moins niais, ils feraient pareil. Ils ne seraient pas là où ils en sont. » Je ne peux pas faire ça parce que je sais très bien que si Dieu n'était pas venu me chercher, je serais en ce moment dans les bas-fonds, à patauger dans les noirceurs de l'âme humaine et à m'y complaire comme un cochon dans son auge. Je le sais. Je ne peux tirer aucune gloire de mon salut. Tout ce que je peux tirer de mon salut, c'est de la reconnaissance, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et c'est aussi, il faut bien le dire, un mystère, parce que je suis le seul chrétien de ma famille d'origine. Mais je ne peux pas regarder les membres de ma famille ou les gens qui m'entourent, je ne peux pas les regarder de haut et tirer un quelconque orgueil de mon propre salut, parce que je n'ai rien fait pour ça. Pour autant, je garde également la notion de pleine liberté humaine. Non seulement parce que, là aussi, j'ai cité quelques versets, je crois la trouver dans la Bible, n'est-ce pas ? Mais aussi parce qu'elle m'interdit de me déresponsabiliser. Je suis pleinement responsable de mon péché. Je suis pleinement responsable lorsque, exposé à la lumière du Christ, je choisis, moi, de rester dans les ténèbres. Je n'ai aucune excuse. Je ne peux pas me cacher derrière le fait que Dieu ne m'a pas donné la foi. J'ai déjà entendu ça. J'y suis pour rien, Dieu ne m'a pas donné la foi. Qu'est-ce que j'y fasse ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe de ce côté-ci de l'expérience de foi. De ce côté-ci, je suis pleinement responsable de mes choix. Ce qui est une perversion de l'Évangile, je crois, c'est quand on fait l'inverse. C'est-à-dire quand on utilise la notion d'élection pour se déresponsabiliser, ce n'est pas de ma faute, Dieu ne m'a pas appelé, ou qu'on utilise la notion de liberté pour se glorifier de son propre salut. Moi, j'ai choisi Jésus. Ah, ça, je suis quand même un peu plus malin que les autres, quoi. La Bible n'atteint jamais ces deux extrémités. Alors, pourquoi Dieu nous a choisis, si ce n'est pas, comme le suggère Arminius, parce qu'on est un peu plus malin que les autres ? Eh bien, c'est le verset 6 qui nous le dit, et ça, c'est assis, il est là. Dieu nous a choisis afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Alors, traduction, la raison du choix de Dieu se trouve en Dieu, pas en nous. Sa motivation, c'est de nous amener à l'adoration lorsque nous prenons conscience du cadeau qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis pour sa propre gloire. Alors, ça peut paraître hyper mégalo, non ? Un peu quand même. Et ça le serait si Dieu n'était pas Dieu. Dieu est le seul digne d'adoration. Dieu n'est pas un être humain, Dieu est Dieu. Et rendre gloire à Dieu, en fait, c'est super, parce que non seulement ça nous évite ce terrible travers qui consiste à glorifier des hommes ici-bas, des hommes et des femmes qui sont pécheurs, tout comme nous, qui sont faits de chair et de sang, tout comme nous, et que nous mettons parfois sur un piédestal comme s'ils étaient des dieux ou des demi-dieux qui sont là comme intermédiaires entre nous et le Seigneur. Mais en plus, rendre gloire à Dieu nous rend heureux. Ça nous rend heureux parce que, littéralement, nous sommes faits pour ça. Nous avons été créés pour ça. Donc, en Christ, nous sommes choisis par le Père. En quoi c'est une garantie pour mon salut ? C'est une garantie parce que si le choix du salut dépend de moi, alors je peux me retirer. Et en fait, je suis faible. Je sais que je peux être assailli par le doute. Je sais que même l'apôtre Pierre a renié son maître 3 fois. Si le salut dépend de mon choix, en fait, je suis cuit, quoi. Et c'est là que l'argument du frère Paul-Adrien tombe à plat, parce qu'il cite Matthieu 10, 22, où Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Et il dit « On ne peut pas savoir si on persévérera jusqu'à la fin ». Ben pardon, mais si, et en fait c'est même très clair, on sait très bien qu'on est parfaitement incapable de persévérer jusqu'à la fin. C'est absolument au-dessus de nos forces de persévérer jusqu'à la fin. Vous voyez, j'échappe de peu à l'anathème. Ce que dit le texte d'Éphésiens, là, c'est qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'œuvre de Dieu en nous. Philippiens 1, verset 6 dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Pas « Je suis persuadé qu'en serrant bien les dents, vous allez tenir jusqu'au bout. » Philippiens 2, 13 dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » C'est son œuvre à lui. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24 disent « Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. » Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui c'est qui va faire ça ? Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. C'est ce que dit 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. C'est sûr que si tu comptes sur tes propres forces pour ton salut, tu as de bonnes raisons d'être inquiet en fait. Mais si ton salut dépend de Dieu, alors il est irrévocable. Dieu n'est pas un homme pour se dédire, il est fidèle. Ce qu'il décrète s'accomplit. Elle est là, la première garantie. Et maintenant, on va voir la deuxième, qui est aussi solide que la première. Nous sommes sauvés par le Fils. Au verset 7, qui introduit le passage de 7 à 12, il est question de la rédemption par le sang du Christ et du pardon des fautes. Alors, on va se pencher un petit peu sur ces deux notions. D'abord, la rédemption, c'est le fait d'avoir été libéré de l'esclavage par le paiement d'une rançon. Dans l'Ancien Testament, un homme endetté pouvait se vendre lui-même comme esclave pour payer sa dette. Et pour que cet homme retrouve un jour la liberté, c'était possible, mais il lui fallait un rédempteur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient payer sa dette à sa place et qui le libère. Donc, si nous avons la rédemption en Christ, c'est d'abord que nous nous étions vendus nous-mêmes comme esclaves. À quoi ? Ou à qui ? Paul nous le dit en Romains 7, 14, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » L'homme naturel est vendu au péché. Romains 3, 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il y a un prix à payer pour notre rachat. Pour notre sortie de l'esclavage. Et ce prix à payer, Romains 6, 23 nous le donne en nous disant « Le salaire du péché, c'est, vous le savez, la mort. » Je l'ai vu sur des lèvres. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est le prix à payer pour notre péché. Si quelqu'un veut nous libérer, le prix à payer, c'est la mort. Et vous l'avez compris, je ne vous fais pas un dessin, nous avons un rédempteur. Jésus a payé ce prix de la mort. Il l'a fait pour nous. C'est pour ça que le verset 7 nous dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est sa mort à la croix qui nous libère. Parce que Jésus a payé le prix, Dieu, le Père, nous a remis notre dette. J'ai dit tout à l'heure que le texte parlait du pardon de nos fautes, mais en fait, plus précisément, il parle de la rémission des péchés. C'est bien de temps en temps d'expliquer quelques mots comme ça. La rémission des péchés, c'est Dieu qui efface notre dette. Il nous remet notre péché parce que Jésus l'a payé par son sang en mourant à notre place. Jésus a fait ça volontairement. En Marc 10, 45, Jésus dit qu'il est venu donner sa vie en rançon pour la multitude. En Marc 14, 24, alors que lui et ses disciples prennent le repas de la Pâque, il annonce sa mort et il présente la coupe en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude ». Jésus n'a pas été une victime au sens premier du terme. Jésus s'est livré pour nous, volontairement. Et les disciples ont bien compris, puisqu'en Galates 1, verset 4, on peut lire que Jésus s'est livré lui-même pour nos péchés. En Éphésiens 5, 2, que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. C'est une offrande volontaire de sa part, il y a pleinement pris part. Et ça, c'est notre deuxième garantie concernant le salut. Alors, en quoi c'est une garantie? Ben là encore, si le salut dépend de mes œuvres, à nouveau, je suis foutu parce que je suis pécheur. Je suis incapable de me racheter moi-même. Tout ce que je sais faire, moi, c'est m'endetter chaque jour un peu plus. Mais si, comme cela nous est dit ici, le salut dépend de l'œuvre de Jésus à la croix, alors je peux être serein, parce que le sacrifice de Jésus, il n'est pas à faire. Il a été fait, il est acté et il a été validé par le Père, par la résurrection du Fils. Donc là encore, c'est quelque chose d'irrévocable. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. Alors, le Père m'a choisi, le Fils m'a sauvé, ok, mais si je tombe, est-ce que par hasard, Dieu ne pourrait pas me lâcher la main? Est-ce qu'il ne pourrait pas m'abandonner? Eh bien, si tu tombes, Dieu te donne une troisième garantie, si les deux premières ne suffisaient pas. La troisième pousse les deux premières à leur comble. Nous avons été scellés de l'Esprit-Saint. Le verset 13 nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit-Saint qui avait été promis. » Il y a une progression dans ce verset. D'abord, on entend la parole de la vérité. Ensuite, par cette parole de vérité, nous venons à la foi. Et enfin, nous dit ce verset, nous sommes scellés de l'Esprit-Saint. Alors, qu'est-ce que c'est un sceau? Il y a trois types de sceaux à ma connaissance, petite pause publicitaire. Le premier, c'est celui-là. S.O.T, mais ce n'est pas celui-là dont on va parler. Le deuxième, c'est celui-là, et ce n'est pas celui-là dont on va parler non plus. Et le troisième qui nous intéresse, le voici. Le sceau, S-C-E-A-U. Les rois avaient une bague, donc, qui leur servait de sceau. Quand ils rédigeaient une lettre, ils la mettaient sous enveloppe, et ils faisaient couler de la cire sur la fermeture, puis ils écrasaient leur bague sur la cire de façon à laisser l'empreinte de leur sceau. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Et bien pour que le destinataire, en recevant la lettre, puisse avoir cette certitude que cette lettre, elle est bien une lettre qui appartient au roi. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça lui appartient, il y a le sceau du roi posé sur cette lettre. Eh bien, l'Esprit-Saint nous a scellés en Jésus-Christ lorsque nous avons cru en lui. Pourquoi faire? Pour attester, pour authentifier que nous appartenons au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Il y a un sceau qui est posé sur nous. Et c'est un marquage spirituel. On en voit quelques-uns dans la Bible. Par exemple, dans la Genèse, on voit Dieu marquer Caïn pour le protéger des peuples qui chercheraient à le tuer. Ou on voit Dieu aussi demander aux Israélites de marquer de sang les linteaux de leur maison pour que la mort n'entre pas chez eux. Ce sont des marquages spirituels. Des marquages spirituels, il y en a des bons, puis il y en a des mauvais. Par exemple, alors l'image est un peu bizarre, mais enfin peu importe, elle est expressive. Vous avez des personnes qui ont comme marqué sur le front Je suis abusable. Et dans leur vie, elles attirent les abuseurs comme des mouches, parce que, même si elles ne se connaissent pas l'une l'autre, leurs démons, eux, se connaissent et se reconnaissent. D'autres ont comme marqué sur le front « Je suis une victime », parce qu'elles se sont installées dans cette identité, par exemple après une agression, et ce marquage conditionne toute leur vie. Elles s'enquistent là-dedans, et donc elles sont perçues comme victimes, traitées comme victimes, et elles n'arrivent plus à sortir de ce statut qui les plombe complètement et qui les empêche de reprendre les rênes de leur vie. Ces marquages-là, évidemment, il faut s'en débarrasser. Quand on prend conscience qu'on est marqué de cette manière-là, il faut se débarrasser de ces marquages. Et je le répète encore une fois, on a des personnes dans l'Église qui peuvent vous recevoir et vous montrer comment faire. Et puis, tout à l'inverse, il y a de bons marquages spirituels. Et il y en a un en particulier qui est quand même super important et bien costaud, c'est celui-là, le baptême. Le baptême, c'est un marquage spirituel qui dit « Celui-là, celle-là, c'est mon enfant. Je l'ai adopté. Il m'appartient. Il a mon Fils pour Seigneur. Il a mon Esprit Saint qui demeure en lui. » Et c'est important parce que les entités spirituelles mauvaises le voient, ça. Les démons le voient, ça. Ils le savent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'après-baptême fait parfois l'objet d'une grande bataille spirituelle, parce que ces entités savent qu'elles vous ont perdu, mais elles vont essayer de vous faire croire le contraire. Alors, ne lâchez rien, évidemment, parce que par le baptême, vous avez été scellé de l'Esprit-Saint. Et quand vous êtes tenté, vous pouvez le rappeler à l'ennemi. Vous êtes enfant de Dieu. Romains 8, 14 à 16 dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cet Esprit Saint que nous avons reçu, nous dit le verset 14, constitue les arts de notre héritage. Les arts, c'est quoi ? Les arts, c'est quelque chose que nous versons pour avoir la garantie de quelque chose. Par exemple, je peux verser des arts pour un appartement, et ça va me garantir que cet appartement, il ne sera pas loué à quelqu'un d'autre. Il est pour moi, c'est acquis, c'est sûr, je ne suis pas encore dedans, mais je sais déjà qu'il est à moi. Eh bien, ce verset nous dit que l'Esprit Saint que nous avons reçu est une garantie de l'héritage à venir. Et quel est-il cet héritage ? Et après, j'arrête parce qu'on passe de verset en verset, mais Hébreux 1,14 et Tite 3,7 nous disent que nous héritons du salut et de la vie éternelle. Et puis, si on regarde un peu dans l'Ancien Testament, mais je vais passer un peu par-dessus, on voit aussi que notre héritage, c'est Dieu lui-même. On le voit en Deutéronome 18,2, qui concerne les Lévites et qui dit que leur héritage, c'est Dieu lui-même. Or, nous sommes, nous, prêtres. Et de la même manière que les Lévites n'avaient pas de terre, nous non plus, nous n'avons pas de terre physique. Notre patrie est céleste, puisque notre roi est le roi d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Alors, le voilà, notre héritage, le salut, la vie éternelle et Dieu lui-même. C'est ça qui nous attend, c'est là la garantie qui nous est donnée par l'Esprit Saint que nous avons reçu. En Christ, nous sommes choisi par le Père. En Christ, nous sommes sauvés par le Fils. En Christ, nous sommes scellés de l'Esprit Saint. En Christ, le salut nous est acquis pour la simple et bonne raison que du début à la fin et où que porte notre regard, le salut ne dépend pas de nous, mais il dépend de Dieu. Notre salut est garanti parce qu'il trouve sa source en Dieu qui est fidèle et juste et non pas en nous qui sommes faibles et inconstants. Voilà pourquoi, de ce début d'Éphésiens, j'aime l'anaphore. J'aime cette insistance de l'apôtre Paul qui fait que le soir, paisiblement, je dors. Oui, je dors, cher Paul-Adrien, parce que je ne doute aucunement de mon sort. S'il était entre mes mains, je tremblerais du soir jusqu'au matin. Mais il est entre les mains de celui qui, sur la croix, a dit « Tout est accompli ». Nous allons prier. Seigneur, quelle angoisse si notre salut dépendait de nous de notre choix, de nos efforts, de ce qu'on peut faire ou pas faire. Quelle angoisse parce que, Seigneur, tu dis que nous sommes pécheurs. Et nous le disons avec toi parce que ta parole le dit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que ton salut est une grâce, c'est un cadeau que tu nous fais. Seigneur, nous ne voulons pas pour autant nous déresponsabiliser. Nous savons bien, nous, de là où nous sommes, que nous sommes responsables face à notre péché. Nous en sommes responsables parce que tu as payé le prix cher pour lui, le prix de la vie de ton Fils unique. Alors, on ne veut pas prendre notre péché à la légère. On ne veut pas prendre ton salut à la légère. On veut être conséquent, Seigneur. On veut être dans l'obéissance. On veut approfondir ta parole, la connaître mieux, l'appliquer toujours mieux à notre vie. Mais nous savons aussi que nous sommes faillibles dans cette tâche et que si notre salut dépendait de ça, eh ben on serait foutus. Mais tu nous dis que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Seigneur, c'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui fais ton œuvre en nous. C'est toi qui nous amène de progrès en progrès sur le chemin de la sanctification. C'est toi qui fais tout ça, Seigneur. Et nous voulons pour ça nous approcher au plus près de toi. Tu nous donnes cette incroyable opportunité de pouvoir nous approcher parce que le voile du temple s'est déchiré, parce qu'il n'y a plus de séparation entre toi et nous. Tu nous permets d'entrer dans ta présence, Seigneur. Nous ne voulons pas nous en détourner, nous ne voulons pas nous en éloigner. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est ce que nous chantons, c'est ce que ta parole dit, c'est ce que nous croyons. Seigneur, je te prie pour que cette parole, nous la vivions vraiment dans le concret de notre quotidien. Nous savons bien que bien des fois, ta parole est étouffée par nos soucis, par le brouhaha de la vie quotidienne, par les multiples bruits qui nous entourent. Seigneur, si nous venons ici chaque dimanche, c'est aussi pour avoir cette parenthèse qui nous permet vraiment de te remettre au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, qui nous permet, que nous le souhaitions ou non, que nous soyons fatigués ou non, de venir ici pour te dire que c'est toi qui comptes dans nos vies. Seigneur, je te prie que ce qu'on vit le dimanche matin ici, on puisse le poursuivre tout au long de notre semaine. Que chaque jour, nous ayons un temps pour penser à toi, pour être avec toi, pour être dans ta présence, pour entendre ta voix, pour écouter ce que tu as à nous dire, non seulement à nous comme communauté, mais aussi à nous personnellement dans nos vies, avec ce que nous vivons chacun, on est tous différents, mais toi tu nous rejoins, chacun là où nous nous trouvons. Nous te remercions pour ça. C'est un grand cadeau, nous l'accueillons avec reconnaissance et voilà, nous voulons simplement être conséquents devant toi vis-à-vis de notre péché. Merci pour ton salut. Amen.